Christian Bobin, j'ai commencé par ce mot difficile, ce mot de rien. Il est vraiment important. Tout au long de votre livre, il revient à plusieurs fois. Quand vous demandiez à votre père, qui était vivant encore, vous lui disiez « qu'est-ce que je peux te faire comme cadeau pour ton anniversaire ?» Il répondait « rien ». Vous dites « il n'y a rien de plus difficile que d'offrir rien ».
Oui.
C'est rare à trouver.
Oui.
Ce mot de rien, il est fondamental, j'ai l'impression, chez vous. Et notamment, par exemple, la notion de ne rien faire. Beaucoup de gens disent oh, « mais Christian Bobin, c'est un contemplatif, il est chez lui ». Il écrit, certes, et puis souvent il ne fait rien. À plusieurs reprises, on perçoit dans votre livre que Ryokan, votre frère, comme vous, vous restez sans rien faire. Mais dans ce rien, on a l'impression qu'il se passe tellement de choses. Regardez passer un nuage, regardez une fleur ou, comme tout à l'heure, un papillon volé. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que c'est que ce rien faire qui est propre à certains moines zen, puis on a l'impression qu'il est propre à Christian Bobin aussi.
Je vois la totalité, et quand je dis je vois, je la ressens, comme un livre, la totalité de la vie, comme un livre. Chaque journée est une page entière enluminée, et qu'on me propose de déchiffrer. Donc la plupart du temps, je préfère me taire au fond, bien que je sois un peu bavard, mais la plupart du temps, je vais plutôt me taire, je vais regarder, passionnément regarder, regarder comme un affamé. Je vais regarder, par exemple, on peut regarder le pain, si on le regarde comme un affamé, on va le connaître profondément, le pain, et aussi peut-être on va aller jusqu'à, on pourrait aller par la voie du cœur, de l'esprit, à retrouver le blé qui a engendré ce pain, à retrouver, à deviner quelque chose des hommes qui ont travaillé sur ce champ, quelque part, à retrouver aussi le mouvement, j'exagère, mais si je n'exagère pas, on ne verra rien, à retrouver et presque à entendre le mouvement du vent sur le champ de blé, qui peu à peu, par des tractations, par des labeurs, par des sueurs, par un travail nocturne et très poétique du boulanger, va arriver à ce pain sur la table, pour peu qu'il soit bon, pour peu qu'il soit pas tout à fait industriel, produit sans âme. Et ne rien faire, c'est réfléchir, mais d'une façon qui n'est pas abstraite.
C'est-à-dire
je pourrais presque l'exercer comme ça devant vous, là, maintenant, parce que vous êtes en face de moi, puis en arrière, il y a une sorte de jardin en friche. Un bruit d'avion aussi, parce que la forêt est sous un couloir aérien. Et ce bruit n'est pas déplaisant. Ce bruit, il est... Alors, vous voyez, par exemple, ce bruit, je le vois comme un bruit de fer à repasser sur un... vous voyez ? Sur un linge.
Sur quoi ? Sur un linge blanc ?
Sur un linge bleu. Ah,
sur un linge bleu.
Voilà. Et je vois les correspondances entre les choses. Mais je les vois à condition de ne pas être encombré par une occupation.
Mais on a l'impression que vous êtes né comme ça. Et à un moment, je crois que vous demandez dans une lettre à votre mère, mais comment as-tu fait mon cerveau ?
Oui.
Et vous êtes né comme ça, ou ça a grandi en vous ? Le fer à repasser insiste là.
C'est magnifique.
Vous qui aimez la musique,
ouais,
c'est
ouais.
Une forme de musique.
Ah, c'est magnifique.
On le voit voler dans le ciel bleu autour de nous.
Et vous...
Il tourne autour de nous. Il tourne autour de nous. Comment vous le recevez, ce son ? Pour certains, ce serait insupportable. Vous l'accueillez comment ?
Est-ce que vous allez le laisser, ce son ?
Oui.
D'abord, il est bien parce qu'il nous interrompt. Il nous fait une bonne leçon, justement, si je puis dire. Mm-hmm. Le son nous fait une leçon. Et puis, il a quelque chose de... Il avait toutes les nuances. Il y a un moment, c'était comme une sorte d'orage. Je crois que ce sont des avions à réaction d'une base aérienne, pas très loin, vers Dijon, je crois. Et... Est-ce que je suis, maintenant qu'il s'éloigne et qu'un peu de paix est revenu, est-ce que je suis comme ça depuis toujours ? Mm-hmm. Moi, je crois, oui. Moi, je crois. J'ai ma tête appuyée, j'ai une tête un petit peu ronde comme ça, j'ai une tête d'enfant, si vous voulez, appuyée contre la vitre du réel, et je regarde. J'attends quelque chose, mais d'une attente qui est très douce, sans impatience, qui ne se connaît même pas. La plupart du temps, c'est une attente qui ne se connaît pas.
Mais vous attendez qui ?
Quelque chose qui vient tout le temps. C'est compliqué. Mmh. Comment je peux vous donner un exemple ? Je vais vous donner l'exemple le plus récent. Là, je suis engagé dans un texte depuis quelques jours. Et j'avais envie de construire des variations, un peu comme les variations Goldberg, des variations musicales. J'imagine, ça n'existera peut-être pas, hein, ça ne donnera peut-être rien du tout, mais j'imagine un livre qui sera construit en variation, comme ce célèbre morceau de Bach. Donc, on irait un peu partout. On se laisserait traverser. Justement, on accueillerait ce qui vient. Sur la porte en arrière de vous, la porte vitrée, je ne sais pas si vous le verrez de ce côté-là, il y a une trace de main. Et je l'ai vue ce matin. Je ne sais pas comment c'est... Il y a 4 doigts, le pouce n'a pas marqué. Et j'ai regardé ça et j'ai vu l'image de l'écriture. J'ai pensé aussi aux images de radiographie. Et cette main sur la vitre, elle est de l'autre côté des images de radiographie. Elle est contraire. Elle ne vient pas d'une machine. Elle est juste un vivant contre un peu de verre. Sans doute quelqu'un a-t-il poussé cette porte vitrée dans le mauvais sens. Donc il a insisté. Il fallait tirer, il l'a poussé. Donc ça a laissé cette trace que je trouve très belle, comme une relique vivante, comme une relique humaine. Et je me suis mis à réfléchir dessus, et j'ai revu que quand j'étais enfant, c'est mon père qui m'a appris à nager dans l'Atlantique, dans les eaux argentées de l'Atlantique, et il me tenait, le souvenir est revenu, il me tenait par le menton, il mettait sa main sous mon menton, de façon à ce que je puisse commencer les mouvements de brasse. Et j'ai pensé aussi, c'était plus vite que tout, j'ai pensé que même quand nous sombrons, il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous maintient la tête, le menton hors de l'eau. Il y a une main ferme dans cette vie. Et ne rien faire, c'est avoir confiance en cette main. Du secours vient tout le temps.
Les moments les plus durs de la vie.
Surtout dans les moments les plus durs. Surtout dans les moments les plus durs. Parce que ces moments les plus durs, ils ont une vertu. Il ne faut pas les rechercher. Ça serait misérable et ça serait doloriste et pas bon. Mais quand ils sont là, ils sont là. Et ils ont une vertu, c'est qu'ils abrasent. Ils passent tout le réel à la soude caustique. Ils éliminent le superflu. Ils nous resserrent, si vous voulez. Ils nous resserrent sur nous-mêmes. Ou plutôt sur notre cœur.
Et l'écriture, Christian Bobin, vous aide à être plus attentif à cette main qui est là toujours partout dans la vie.
Ah oui, mais elle me l'a fait voir. Parce que j'ai commencé à l'écrire. Bon, à l'instant, c'est un brouillon et peut-être il existera un jour dans un livre ou peut-être pas. Mais c'est l'écriture qui me fait voir. Dans la vie, pour prolonger cet exemple, dans la vie, je vois juste ce qu'une ménagère voudrait se dépêcher de nettoyer, ce qu'une ménagère ou qu'un homme qui tient son logement en propre voudrait se dépêcher d'effacer. Et moi, voyant cette main, je commence à écrire dessus. Je prends mon feutre et j'ai envie d'écrire, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ça se tricote. Je me souviens d'une radio des mains que j'avais vue, je me souviens comment les médecins accrochent aussi, un peu avec une sorte de brutalité rapide, la plaque photographique comme ça, sur un feu de lumière blanche. Et puis je me suis souvenu aussi de cette main paternelle qui m'évite le naufrage, qui m'évite de boire la tasse. Et puis ainsi de suite, tout m'apparaît jusqu'à ce que j'ai vu soit riche de presque la totalité du monde.